Chapitre 22. Dans la galerie, les musiciens jouèrent une chanson de marin pour saluer l'arrivée des porteurs de bannières qui entraient dans la salle à manger. Imitant les vagues d'un océan, les deux hommes firent aussitôt onduler leur grand drapeau bleu en rythme avec la mélodie. Sur les étendards, les bateaux de pêche peints parurent chevaucher bravement une mer démontée. Alors que les serviteurs privés du pontife s'affairaient autour de sa table, des domestiques en livrée du ministère de la Civilisation défilèrent devant celle de Bertrand Chanebourg pour lui présenter sur des plateaux d'argent une somptueuse sélection de produits de la mer. Le ministre choisit des pâtes de crabe, des filets de saumon, de la friture d'alevin, une petite portion de brême et de l'anguille à la sauce au safran. Quand ils eurent garni le plateau que Chanebourg partagerait avec sa dame, les serviteurs passèrent aux autres convives. Bertrand trempa un morceau d'anguille dans la sauce et le tendit à Hildemara. Avec un tendre sourire, elle le prit délicatement du bout des ongles, mais le posa dans son assiette sans le goûter. Comme prise d'une inspiration soudaine, elle se tourna vers Stein et l'interrogea sur les habitudes alimentaires de son lointain pays natal. Bien qu'il fût depuis peu au domaine, Dalton savait que Dame Chanebourg abominait l'anguille. Lorsqu'un serviteur leur présenta un plateau d'écrevisses, Dalton lut dans le regard de sa femme qu'elle avait très envie d'en goûter une. Sur un geste de l'assistant, le domestique fendit la carapace, retira le corail, dégagea la chair et inséra dessous un peu de beurre et une lamelle de toast. Dalton préféra se couper une tranche de marsouin sur le plateau que lui présentait un serviteur à la tête humblement inclinée. Quand il eut fini, l'homme lui fit une révérence comme l'exigeait le protocole et s'éloigna d'un pas gracieux de danseur. À voir le nez plissé de Teresa, Dalton devina qu'elle n'appréciait pas l'anguille. Il en prit un peu, mais uniquement sur l'insistance de Bertrand. « Allez-y, mon ami, » l'encouragea-t-il. « Ce serpent de mer est excellent pour celui que nous portons entre les jambes. » Dalton sourit comme s'il trouvait hilarant ce mot d'esprit. Concentré sur son travail, en particulier la tâche qu'il devait mener à bien au plus vite, il ne se souciait guère du serpent en question pour le moment. Alors que Teresa goûtait de la carpe au gingembre, Dalton savoura une bouchée de hareng au caramel salé. Devant ses yeux, les domestiques Haken, telle une armée d'envahisseurs, déferlaient sur les autres tables. En guise d'armes, ils brandissaient des plateaux lestés de filets frits de brochets, de bars, de flétans et de truites. Sans parler des tronçons de lamproie et de diverses préparations à base de haddock et de merlu. Certains présentaient aux convives des perches, des saumons et des esturgeons entiers. D'autres proposaient des crabes, des crevettes et des bulots sur un lit de glace et deux de cabillaud. De pleines soupières de bisques de homard circulaient entre les tables en même temps qu'un assortiment de sauces multicolores. Cette incroyable quantité de nourriture, présentée avec tellement de recherche, ne visait pas seulement à souligner le pouvoir et la prospérité du ministre de la Civilisation. Afin de le protéger des accusations d'excessive prodigalité, cette exhibition gastronomique avait aussi une profonde signification religieuse. Cette manne, puisqu'il fallait bien l'appeler ainsi, témoignait de la splendeur du Créateur et louait son infinie bonté. La pieuse vérité dissimulée sous une abondance à première vue arrogante. Le banquet n'était pas organisé pour plaire à quelques invités triés sur le volet. Des convives effectivement sélectionnés avaient été priés d'y assister. Une différence subtile mais fondamentale. Puisqu'aucun motif ne justifiait les festivités, par exemple un mariage ou l'anniversaire d'une grande victoire militaire, elles devaient avoir un sens religieux, si peu apparent fut-il. La présence du pontife, ce messager du Créateur dans le monde des vivants, en attestait indubitablement. Si les invités admiraient au passage la fortune, la puissance et la noblesse du couple Chanebourg, c'était un effet secondaire, hélas inévitable. Très incidemment, Dalton remarqua que cet épiphénomène n'épargnait personne. La salle à manger bourdonnait d'éclats de rire et de bribes de conversation. Alors que les invités buvaient, goûtaient les plats ou trempaient les doigts dans les saucières pour avoir tout essuyé, la harpiste avait recommencé à jouer afin de stimuler leurs ardeurs. Aux places d'honneur de la table principale, Bertrand Chanebourg se gavait d'anguilles en parlant avec sa femme, l'émissaire Stein et les deux bailleurs de fonds. Dalton posa ses couverts et s'essuya les lèvres. L'atmosphère se détendait de minute en minute, lui offrant l'ouverture qu'il guettait. Après avoir bu une gorgée de vin, il se pencha vers sa femme. En as-tu appris davantage sur le sujet dont nous avons parlé un peu plus tôt? Teresa coupa en deux un morceau de brochet puis saisit la plus petite moitié entre le pouce et l'index et la trempa dans une sauce au vin rouge. Bien entendu, elle avait compris que son mari évoquait Claudine. Rien de spécial, mais je soupçonne que notre vipère n'a pas encore décidé d'avaler sa langue. Si Teresa ignorait les détails de l'affaire, elle savait que Claudine menaçait de faire du grabuge à cause de son rendez-vous galant avec le ministre. Et bien qu'il ne se soit jamais étendu sur le sujet, elle avait conscience de ne pas être assise à la table d'honneur ce soir à cause des seuls talents de juriste de Dalton. « Pendant que j'étais avec elle, » continua Teresa en baissant la voix, « elle n'a pas cessé de regarder le directeur Lynn Scott, mais elle a dérobé comme si elle voulait que personne ne s'en aperçoive. » Les rapports de la jeune femme étaient toujours concis, sans les fioritures ni les suppositions que la plupart des gens croyaient de rigueur. Dalton appréciait aussi cette qualité chez son épouse. « Selon toi, pourquoi a-t-elle raconté à toutes les autres femmes que le ministre avait été indélicat avec elle ?»« Pour se protéger et pour qu'il devienne inutile, contente de la réduire au silence puisque l'information était déjà connue. » Sans raison apparente, elle semble s'être convertie à la discrétion, mais elle regardait le directeur Lynn Scott avec une insistance que je trouve suspecte. Teresa laissa à son mari le soin de tirer les conclusions qui s'imposaient. Dalton se leva puis se pencha vers elle. « Merci, ma chérie. Si tu veux bien m'excuser un moment, j'ai une affaire urgente à régler. N'oublie pas ta promesse de me présenter au pontife, » souffla Teresa en le retenant brièvement par la main. Dalton embrassa son épouse sur la joue, puis chercha le regard du ministre. Les informations de Teresa venaient de lui confirmer qu'il était temps d'agir. Avec un enjeu pareil, mieux valait être prudent. Si on le lançait sur une piste, le directeur Lynn Scott serait aussi acharné qu'un chien de chasse. En principe, le message délivré par les deux jeunes Haken avait dû convaincre Claudine de se taire. Si ce n'était pas le cas, le prochain mouvement tactique de Dalton empêcherait définitivement la chienlit de pousser. Il fit un signe de tête presque imperceptible à Bertrand. En se déplaçant dans la salle, il s'arrêta devant plusieurs tables, salua les convives, rit des plaisanteries qu'on lui lançait, écouta avec un sérieux affecté une ou deux propositions de loi qui l'indifféraient et promit des rendez-vous à quelques fâcheux plus insistants que les autres. Ainsi, tout le monde penserait que le bras droit du ministre passait de table en table pour s'assurer que chacun était satisfait. Quand il eut atteint sa véritable destination, Campbell afficha un sourire chaleureux. « Claudine, j'espère que vous vous sentez mieux. Teresa m'a suggéré d'aller m'en enquérir. Elle se désole qu'Edwin ne soit pas à vos côtés, comprenez-vous. » Dame Winthrop parvint à sourire avec une candeur et une sincérité parfaitement imitées. « Votre femme est adorable, messire Campbell. Je me porte comme un charme, merci. La bonne chère et la compagnie m'ont requinqué. Dites-lui de ne plus s'inquiéter. »« Je suis ravi d'entendre de si bonnes nouvelles. » Dalton se pencha pour parler à l'oreille de Claudine. « Je venais vous transmettre une proposition qui concerne au plus haut point votre mari. Et vous aussi, bien entendu. Mais en l'absence d'Edwin et après votre malencontreuse chute, j'ai des scrupules à vous parler de travail. Auriez-vous l'obligeance de m'accorder un rendez-vous lorsque vos malheurs ne seront plus que de mauvais souvenirs? Merci de votre délicatesse, mais elle est sans objet. Si votre proposition est liée à Edwin, il m'en voudrait de ne pas l'avoir écoutée. Mon mari et moi travaillons ensemble, messire Campbell, et il n'y a pas de secret entre nous. Mais vous le savez très bien. » Évidemment que je le sais, pensa Dalton. C'est même là-dessus que je compte pour te piéger, pauvre idiote. Alors que Claudine reculait un peu sa chaise, il s'assit sur les talons et baissa la voix. « Veuillez me pardonner ma présomption, cher ami. Voici le fond de l'affaire, puisque vous y tenez. Le ministre est plein de compassion pour les hommes qui doivent mendier afin de nourrir leur famille. Car même s'ils réussissent à se procurer de quoi acheter à manger, il reste le problème des vêtements, du logement et d'autres biens de première nécessité. Malgré la charité dont fait montre la population d'Anderit, trop d'enfants se couchent encore avec l'estomac vide. Des Haken et des Andériens subissent ce sort cruel et le ministre les plaint tous car il ne fait pas de discrimination. Il a travaillé fébrilement à l'élaboration d'une nouvelle loi qui permettra de remettre au travail une grande partie des malheureux qui ont perdu tout espoir de s'en sortir. « Une très bonne initiative, » murmura Claudine. « Bertrand Chanebourg est un homme de bien. Nous avons de la chance qu'il soit ministre de la civilisation. » « Comme vous le savez sûrement, il ne manque pas une occasion de rappeler combien il admire Edwin et le travail qu'il accomplit dans l'ombre. Je lui ai suggéré qu'il était temps d'offrir à votre mari la notoriété qu'il mérite. Le ministre a jugé mon idée excellente. Dans cet esprit, il voudrait que la nouvelle loi soit présentée comme une proposition d'Edwin Winthrop en personne. Il aimerait même l'appeler « la loi Winthrop pour l'emploi équitable », afin qu'il n'y ait pas d'équivoque possible. Un moyen d'honorer votre époux, et vous aussi, bien entendu. Tout le monde sait à quel point vous enrichissez la réflexion d'Edwin. » Claudine leva pour la première fois les yeux sur Dalton, et elle posa modestement une main sur son cœur. « Messire Campbell, le ministre et vous êtes très généreux. Je ne sais que dire. À ma place, Edwin aussi en resterait sans voix. Nous lirons le texte de loi le plus vite possible afin d'accélérer sa promulgation. Hélas, il y a un petit ennui. Le ministre vient de m'informer qu'il veut annoncer la grande nouvelle dès ce soir. » J'avais prévu de vous faire parvenir la première mouture du projet pour qu'Edwin et vous puissiez l'amender à votre guise, mais tous les directeurs étant là, le ministre en conscience a jugé qu'il ne devrait plus tarder. Pourquoi priver de pauvres gens de travail un jour de plus? Leurs familles ont besoin de manger. Eh bien, je comprends, mais vraiment c'est... Merci de nous donner votre accord, Dame Winthrop. C'est si gentil à vous. « Avant, je voudrais quand même jeter un coup d'œil à la loi. Il le faut, Edwin n'agirait pas autrement. »« C'est évident, madame. Je vous comprends. Et soyez assurée que vous recevrez une copie dans les meilleurs délais. Dès demain matin, en fait. »« Je parlais d'avant, le ministre a décidé de faire son annonce ce soir. Il ne veut plus perdre de temps, car le sujet est trop important. Cela dit, il serait peiné de devoir changer le nom de la nouvelle loi. » Mais il tient à ce que le pontife, dont les visites sont si rares, entende parler sur le champ de la loi Winthrop pour l'emploi équitable. Une révolution juridique au bénéfice de tous ceux qui souffrent. Le pontife connaît bien Edwin. Il serait ravi que cette innovation vienne de lui. Claudine regarda brièvement le vieux dirigeant du pays. « Je sais, mais vous voulez que je demande au ministre de tout retarder ?» Il sera déçu que le pontife n'ait pas été le premier à découvrir sa loi, et plus encore que des milliers d'enfants crient toujours famine alors qu'il aurait pu mettre un terme à ce scandale. Car vous avez bien compris, n'est-ce pas, qu'il s'agit du bien-être de ces pauvres petits. « Oui, mais pour Claudine, » dit Dalton en prenant la main de son interlocutrice entre les siennes. « Vous n'avez pas d'enfants. » « Je comprends que vous ayez du mal à vous mettre à la place de parents dans l'incapacité de nourrir les leurs parce qu'on leur refuse un emploi. Tentez d'imaginer combien ce doit être terrifiant. » Claudine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Dalton enchaîna pour ne pas lui laisser le temps de se ressaisir. « Pensez à ce qu'éprouvent un père et une mère qui attendent en vain une raison d'espérer. Un emploi, n'importe lequel, pour avoir le droit de croire de nouveau en l'avenir. » « Pouvez-vous un instant vous mettre à la place d'une mère qui ignore comment elle nourrira ses enfants ?»« Bien sûr que je le peux, » murmura Claudine, le teint grisâtre. « Je comprends, et je désire faire mon possible pour aider ces malheureux. Edwin sera fier que son nom soit associé à cette loi, mais... »« Merci, Claudine, » coupa Dalton. Il souleva la main de la pauvre femme et y posa un baiser. « Le ministre sera heureux d'avoir votre soutien. » Et les pauvres gens qui bénéficieront de ces mesures béniront votre nom. Vous avez loyalement servi la cause des enfants. À l'instant même, je suis sûr que les esprits du bien vous sourient. » Quand Dalton eut regagné sa place près de Teresa, Il constata que les serviteurs avaient recommencé leur manège, posant une grosse tourte à la tortue au milieu de chaque table. Les convives s'étonnèrent de la présentation de ces tourtes, dont on avait entaillé la croûte sans la découper totalement. Penchée en avant, Teresa étudia attentivement celle qui trônait devant le ministre et son épouse.
« Dalton, murmura-t-elle, cette tourte bouge toute seule ?»«
Tu dois te tromper, ma chérie, » répondit Campbell en réprimant un sourire. « Les tourtes ne marchent pas. »«
Mais je suis sûr que... »
Avant que Teresa ait terminé sa phrase, la croûte se fissura puis se souleva. Une tortue passa la tête par le trou, regarda le ministre, prit appui sur la croûte avec ses pattes griffues et sortit de la tourte. Une autre la suivit presque aussitôt. Dans toute la salle, les invités applaudirent, tandis que des tortues jaillissaient de leurs cachettes devant leurs yeux ébahis. Bien entendu, elles n'avaient pas cuit avec la pâte. Avant de les mettre au four, on avait fourré les tourtes de haricots blancs. Une fois la croûte bien dorée, on les avait mises à refroidir, puis on avait creusé un trou au fond pour retirer les haricots et les remplacer par des tortues. La croûte ayant été entaillée, les animaux s'étaient évadés de leur prison sans trop de difficultés. Ces tourtes magiques furent un des grands succès de la soirée. Certaines contenaient des oiseaux, également dressés pour sortir de leur cachette sous le regard émerveillé des convives. Quand tout le monde se fut bien amusé, des serviteurs munis de seaux firent le tour des tables pour récupérer les tortues baladeuses. Dame Chanbourg appela le chambellan et lui demanda d'annuler les numéros censés faire patienter les gens jusqu'au prochain service. Quand elle se leva, un lourd silence tomba soudain sur la salle.
« Messieurs et mesdames, puis-je vous demander votre attention ?»
Hildemara s'assura que tout le monde la regardait. Avec sa robe qui scintillait comme une colonne d'argent, il n'aurait guère pu en être autrement.
« Notre plus grand devoir est d'aider nos concitoyens lorsqu'ils en ont besoin. Ce soir, nous espérons faire un grand pas pour améliorer le sort des enfants d'Anderit. C'est une avancée audacieuse qui exige du courage. Par bonheur, le chef qui préside à nos destinées n'en manque pas. J'ai l'honneur de vous présenter le plus grand homme qu'il m'ait été donné de connaître, un serviteur de l'État intègre qui travaille inlassablement pour le bien de tous et n'oublie jamais les plus démunis, un dirigeant qui place notre avenir au-dessus de tout, le ministre de la Civilisation, Bertrand Chanbourg. »
Hildemara sourit, applaudit, puis désigna son époux. Alors que la salle entière l'acclamait, Bertrand se leva et passa un bras autour de la taille de sa femme, qui tourna vers lui des yeux humides d'adoration. Quand il lui rendit son regard enamouré, l'assistance cria de joie, heureuse qu'un couple aussi uni et désintéressé dirige hardiment Anderit. Dalton se leva et applaudit, les mains au-dessus de la tête. Voyant que tout le monde l'avait imité, il sourit et tourna vers le couple ministériel des yeux débordants d'affection. Dans sa carrière, il avait travaillé pour beaucoup d'hommes. Certains étaient si balourds qu'il n'aurait pas été crédible en annonçant qu'il payait une tournée générale. D'autres se montraient assez malins pour appliquer les plans qu'ils concevaient, mais sans vraiment les comprendre jusqu'à ce qu'ils aient porté leurs fruits. Aucun ne jouait dans la même catégorie que Bertrand Chanbourg. Lui avait saisi en un éclair l'idée fulgurante de son assistant. À présent, il allait la reprendre à son compte et l'enrichir comme il se devait. Personne n'était plus souple et adaptable que le ministre de la Civilisation. Bertrand leva une main pour remercier la foule et lui demander le silence.
« Bonne gens d'Anderit, »
dit-il d'une voix à la sincérité vibrante et assez forte pour atteindre le fond de la salle.
« Ce soir, je vous demande de réfléchir à l'avenir. Le temps est venu de reléguer notre vieille tendance au favoritisme là où elle mérite de l'être, dans le passé. Oui, nous devons penser au futur, le nôtre et celui de nos enfants et petits-enfants. »
Bertrand dut marquer une pause pour laisser crépiter les applaudissements. Dès qu'il reprit la parole, le silence revint.
Notre avenir est condamné si nous permettons aux partisans de l'immobilisme de brider nos imaginations. Car il faut laisser s'exprimer l'inventivité audacieuse dont nous a doté le Créateur. »
Une nouvelle fois, l'orateur dut laisser son auditoire exprimer un enthousiasme débordant. Dalton s'émerveilla de l'art avec lequel Bertrand savait improviser une sauce appétissante pour faire avaler un morceau de carne à son public.
Dans cette salle, nous assumons tous des responsabilités pour l'entière population d'Anderit, et pas seulement pour une élite. Il est temps que notre civilisation, dont nous sommes si fiers, bénéficie à tous et cesse de favoriser les riches. Nos lois doivent servir le peuple dans son ensemble, pas quelques privilégiés.
Dalton se releva pour applaudir. De nouveau, tout le monde l'imita. Toujours aussi rayonnante et pleine d'amour pour son héros, Hildemara se remit également debout et l'acclama.
« Quand j'étais jeune, »
reprit Bertrand lorsque le calme fut revenu,
« j'ai connu la torture de la faim. À cette époque, Anderit vivait des temps difficiles, et mon père n'avait pas de travail. Chaque soir, j'entendais ma petite sœur sangloter en s'endormant parce que son estomac criait famine. Et j'ai vu mon père pleurer en silence, honteux de ne pas avoir un emploi à cause de son absence de qualification. »
Il marqua une pause pour s'éclaircir la gorge.
« C'était un homme fier, mais ce drame a bien failli le briser. »
Dalton tenta de se rappeler si Bertrand avait bien une sœur. À sa connaissance, ce n'était pas le cas.
« Aujourd'hui, il y a dans ce pays des hommes fiers qui ne demandent qu'à travailler. En même temps, combien de grands projets publics traînent en longueur? Plusieurs bâtiments gouvernementaux sont depuis des années en construction et d'autres attendent de sortir de terre. Nous devons développer notre réseau routier pour faciliter le commerce, ériger des ponts pour franchir les rivières et les cols des montagnes. Pour ces tâches essentielles, mes amis, Anderit a besoin de bras. » Mais aucun des hommes dont je parlais ne peut se mettre à l'ouvrage parce qu'il manque de qualifications, comme mon père jadis.
Bertrand sonda la foule, suspendue à ses lèvres, dont allait jaillir une solution miraculeuse.
Nous pouvons fournir un emploi à ces pères de famille. Et c'est à moi, le ministre de la Civilisation, d'assurer qu'ils aient les moyens de nourrir leurs enfants qui incarnent notre avenir. J'ai demandé aux cerveaux les plus brillants du pays d'imaginer un remède à notre mal, et ils ont répondu « présent, pour le salut du peuple d'Anderit ». Pour être franc, j'aimerais m'attribuer le mérite de ces nouvelles mesures, mais c'est impossible. Les idées de ces érudits sont si fulgurantes que je me félicite de pouvoir, dans ma modeste mesure, contribuer à leur mise en application. Par le passé, les génies qui ont tenté d'imposer des réformes aussi radicales sont souvent morts oubliés de tous, dans des chambres misérables. Il n'en sera pas de même cette fois, car je ne tolérerai pas que des intérêts particuliers menacent l'avenir de nos enfants.
Bertrand laissa sa colère, toute virtuelle, s'afficher sur son visage. Quand il prenait cette expression, peu de gens parvenaient à ne pas blêmir et trembler de peur.
« Jadis, il y eut des égoïstes qui souhaitaient le meilleur pour leurs semblables et ne laissaient aucune chance aux autres de réaliser leur potentiel. »
L'allusion était limpide. Le temps ne refermerait jamais les blessures que les grands seigneurs Haken avaient infligées aux Andériens, surtout si les dirigeants, parce que ça les arrangeait, faisaient tout pour qu'elles restent béantes. Bertrand reprit son expression bienveillante habituelle, encore plus agréable après sa manifestation de colère.
« Ce nouvel espoir a un nom, messieurs et mesdames. La loi Winthrop pour l'emploi équitable. »
Il tendit une main en direction de Claudine.
« Dame Winthrop, auriez-vous l'obligeance de vous lever ?»
Rouge comme une pivoine, Claudine regarda autour d'elle et vit que tout le monde lui souriait. Des applaudissements l'encouragèrent à se mettre debout. Avec l'air d'une biche prise au piège, elle hésita un peu, puis se résigna à accéder au désir de la foule.
« Bonnes gens !»
reprit Bertrand.
« C'est Edwin, le mari de Dame Winthrop, qui est le père de cette nouvelle loi. Comme beaucoup d'entre vous le savent, sa femme lui est d'une aide précieuse dans son travail. Je suis sûr qu'elle a joué un rôle éminent dans l'élaboration du texte que je vais vous soumettre. Edwin est absent, pris par ses affaires, mais je tiens à saluer la contribution de son épouse à son œuvre. et j'espère qu'elle lui transmettra notre humble admiration dès qu'il sera de retour. »
Imitant Bertrand, la foule applaudit Claudine et son mari. L'héroïne de la soirée, de plus en plus rouge, répondit d'un sourire prudent à ce feu d'artifice d'adoration. Dalton remarqua que les directeurs, ignorant encore le contenu de la loi, l'acclamaient poliment, mais restaient sur leur compte à soi. Tout le monde voulant féliciter Claudine, lui serrer la main ou lui sourire, il fallut un moment avant que le calme revienne. Quand chacun se fut rassis, Bertrand passa à l'exposé des mesures que son auditoire venait de plébisciter sans les connaître.
« La loi Winthrop pour l'emploi équitable est exactement ce que son nom laisse penser, » expliqua-t-il enfin. « Libérer les forces du travail et non les entraver, voilà son but ultime. Avec tous les projets publics en cours ou à l'étude, nous avons assez d'ouvrages pour rendre leur dignité à des milliers de malheureux. »
Le ministre promena un regard plein de détermination sur l'assistance.
« Mais une confrérie s'accroche à des prérogatives dépassées, entravant ainsi le progrès. Ne me comprenez pas mal. Ces hommes sont d'une haute moralité et ils travaillent dur. Mais il est temps d'ouvrir les portes de cette archaïque institution, trop encline à défendre les privilèges d'une minorité. En conséquence, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'emploi dans les travaux publics sera accessible à tous ceux qui veulent bien relever leurs manches et plus aux seuls membres de la guilde des maçons. »
L'auditoire cria de surprise, mais Bertrand enchaîna sans marquer de pause.
« Il y a pis, messieurs et mesdames. À cause de cette organisation très fermée, dont il est difficile de satisfaire les exigences obscures et inutilement strictes, le coût des constructions publiques est beaucoup plus élevé que si on les confiait à de simples travailleurs, désireux de bien faire. »
Le ministre brandit le poing.
« Nous nous faisons tous détrousser, mes amis !»
Le directeur Linscott, empourpré jusqu'aux oreilles, semblait sur le point d'exploser de rage. Bertrand déplia l'index de son poing fermé et le braqua sur l'assistance.
« Le savoir-faire des maçons nous sera toujours précieux. Mais à partir de maintenant, sous leur supervision, tous ceux qui ont besoin de travailler le pourront. Ainsi, aucun enfant n'aura plus faim parce que son père est sans emploi. »
Le ministre se frappa dans la paume pour souligner l'importance de ce qu'il allait ajouter.
« Je demande au directeur de l'harmonie culturelle de nous montrer à main levée qu'il soutienne cet effort visant à rendre l'espoir aux miséreux. Qu'il se range derrière un gouvernement enfin capable d'achever ou d'entreprendre des ouvrages publics à un coût raisonnable. Un gouvernement assez courageux pour ne plus se laisser imposer des prix par une société secrète qui prospère sur le dos de tous les citoyens. Oui, que les directeurs montrent qu'ils sont prêts à lutter pour le bonheur des enfants. Bref, qu'ils approuvent la loi Winthrop pour l'emploi équitable. »
Linscott bondit sur ses pieds.
« Je proteste contre ce vote à main levée. Nous n'avons pas encore eu le temps de... »
Il se tut quand le pontife leva un bras.
« Si les autres directeurs souhaitent manifester leur soutien à cette loi, »
dit-il d'une voix haute et claire,
« les personnes présentes dans cette salle ont le droit de le savoir, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. » Une approbation à main levée n'est pas un vote, mais la simple expression d'une opinion personnelle. Cela n'interdira pas qu'on débatte de la loi avant de l'adopter, comme le prescrit notre Constitution. »
L'intervention du vieil homme venait d'épargner une épreuve de force au ministre. Bien qu'il eût raison sur le fond, une approbation à main levée ne suffirait pas à faire adopter la loi. Dans ce cas précis, où les intérêts des guildes et des diverses professions convergeaient, cela reviendrait quasiment au même. Dalton ne doutait pas de la position que prendraient les autres directeurs. La nouvelle loi condamnait une guilde à mort, et le ministre avait bien fait comprendre que la hache du bourreau pourrait s'abattre sur d'autres têtes si nécessaire. Sans en connaître la raison, les directeurs savaient désormais qu'un de leurs pères était tombé en disgrâce. Bien que 4 d'entre eux seulement fussent des maîtres de guildes, les autres n'étaient pas à l'abri. Qu'arriverait-il si les prêteurs sur gage subissaient une baisse brutale de leur taux d'intérêt? Voire si on déclarait l'usure illégale? Et que deviendraient les marchands si on les obligeait à baisser leurs marges ou à s'acquitter de droits de passage exorbitants sur les routes publiques? Quant aux conseillers juridiques et aux avocats, il était enfantin de fixer par décret leurs honoraires à un niveau assez bas pour qu'un mendiant puisse offrir leurs services. Si elles déplaisaient au ministre, aucune profession n'était hors de portée d'une loi assassine. Bref, si les 11 directeurs ne soutenaient pas Bertrand, leur guilde ou leur corps de métier sentirait sur leur cou le tranchant de la hache du bourreau. Une approbation à main levée plutôt qu'un scrutin secret assurait ceux qui obtempéreraient que leur tête ne risquait rien. Claudine se laissa tomber sur sa chaise. Elle aussi avait saisi toutes les implications de cette révolution. Pour travailler comme maçon, il était obligatoire d'appartenir à la guilde qui décidait de la formation à suivre, des critères d'excellence et des prix à pratiquer. Elle arbitrait les différends, affectait les travailleurs sur les chantiers, prenait soin de ses adhérents blessés ou malades et aidait les veuves des ouvriers victimes d'accidents du travail. Quand des employés non qualifiés leur feraient concurrence, les membres de la guilde ne pourraient plus prétendre à des salaires proportionnés à leurs compétences, et cela seul suffirait à détruire leur organisation. Lynn Scott pouvait d'ores et déjà faire une croix sur sa carrière. Ayant perdu la protection de la guilde alors qu'il la dirigeait, les maçons le chasseraient de son poste en moins de 24 heures. Les ouvriers non qualifiés auraient du travail et lui se retrouverait au banc de la société. Bien entendu, les projets publics, au bout du compte, coûteraient beaucoup plus cher. Après tout, les compétences avaient une certaine valeur. Un homme qu'on payait bien mais qui connaissait son métier finissait par être plus économique et le produit fini se révélait meilleur. Un directeur leva la main pour manifester son soutien, certes informel mais bel et bien acquis, à la nouvelle loi. Les autres regardèrent son bras se tendre, comme s'il s'agissait d'une flèche volant vers la poitrine d'un homme pour lui traverser le cœur. La cible de ce projectile se nommait Lynn Scott, et personne ne voulait partager son sort. L'une après l'autre, des mains se levèrent et on put bientôt en compter 11. Lynn Scott foudroya Claudine du regard avant de sortir en trompe de la salle. Vaincue, Dame Winthrop baissa la tête. Dalton choisit ce moment pour applaudir le courage des directeurs. Son initiative détendit l'atmosphère et toute l'assistance l'imita. Les convives proches de Claudine continuèrent à la congratuler, assurant que son mari et elle venaient de sauver les enfants d'Anderit. Des voix s'élevèrent pour stigmatiser le comportement égoïste des maçons. Bientôt, une véritable file d'admirateurs se forma devant Claudine et des centaines de mains se levèrent pour manifester leur soutien au ministre de la civilisation, si courageux quand il s'agissait de lancer des réformes. Un pâle sourire sur les lèvres, Claudine répondit poliment à ses laudateurs. Le directeur Lynn Scott n'accepterait plus jamais de l'écouter, quoi qu'elle ait à dire. Stein gratifia Dalton d'un sourire entendu. Hildemara fit de même avec un rien d'autosatisfaction, et Bertrand lui tapa amicalement sur l'épaule. Quand tout le monde se fut rassis, la harpiste tendit les mains vers les cordes de son instrument, mais le pontife leva de nouveau un bras. Tous les regards se tournèrent vers lui.
« Avant le prochain service, » dit-il, « je propose que nous écoutions ce que l'émissaire d'un très lointain pays veut nous dire. »
À son âge, le pontife avait du mal à veiller tard. Avant de s'endormir à table, il tenait à entendre l'exposé de Stein. Bertrand se releva et s'adressa à l'assistance.
« Bonnes gens d'Anderit, comme vous le savez, une guerre fait rage hors de nos frontières. Les deux camps ont des arguments pour nous convaincre de les rejoindre. Mais Anderit n'aspire qu'à la paix. Voulons-nous voir nos jeunes hommes et nos jeunes femmes se vider de leur sang sur un champ de bataille? Certes non. Notre pays est dans une situation unique au monde parce que les dominis d'Urch le protègent. Grâce à cela, nul ne peut nous menacer. Mais il y a d'autres enjeux, dont le moindre n'est pas la pérennité de nos échanges commerciaux avec le monde qui nous entoure. Nous écouterons, bien entendu, ce que le Seigneur Ral et la mère inquisitrice veulent nous dire. Ils ont décidé de se marier, comme vous l'avez sûrement appris de la bouche des diplomates de retour d'Aidindril. Ces épousailles uniront Dara et les contrées du milieu, qui deviendront une force impressionnante. Nous attendons avec respect le point de vue de cette nouvelle alliance. Ce soir, c'est l'ordre impérial qui s'adressera à nous. L'empereur Jagang nous a envoyé un émissaire venu de l'ancien monde, au-delà de la vallée des âmes perdues. Depuis des millénaires, nul n'avait pu emprunter ce passage qui est désormais ouvert.
Bertrand tendit un bras.
« J'ai l'honneur de vous présenter, maître Stein, le porte-parole de l'empereur Jagang. »
Les convives applaudirent poliment, mais cessèrent dès que le colosse se leva. Imposant, terrifiant et fascinant, il glissa les pouces dans son ceinturon où ne pendait aucune arme.
« Nous luttons pour notre avenir, » dit-il, « comme vous, mais sur une plus grande échelle. »
Il prit un morceau de pain et le broya dans son énorme main.
« L'humanité et le peuple d'Anderit ne fait pas exception, est écrasé par une force inique. On nous exclut et on nous condamne à l'étouffement. Oui, nous sommes privés de notre avenir, de notre destin et de la vie elle-même. Chez vous, une guilde égoïste interdit à d'honnêtes pères de famille de travailler et les empêche de subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais partout, la magie tient les hommes et les femmes sous son emprise. »
Des murmures de surprise coururent dans l'assistance, désorientés et vaguement inquiètes. Si certaines personnes en Anderit détestaient la magie, beaucoup d'autres la respectaient.
« La magie décide de notre destin, sans se soucier de nos désirs !»
continua Stein.
« Ceux qui détiennent le pouvoir nuisent à des innocents parce qu'ils les craignent, les haïssent ou les envient. Ou simplement pour garder les masses sous leur domination. Ces gens-là gouvernent notre vie, que nous le voulions ou non. Sans eux, l'esprit de l'homme pourrait se développer librement. L'heure est venue pour nous de décider de ce que nous sommes et de notre avenir, sans que l'ombre de la magie plane sur tous nos actes. »
Stein tira sa cape sur le côté et la souleva.
« Ce sont les scalpes des sorciers que j'ai tués de mes propres mains. Ainsi, j'ai empêché ces jeteurs de sorts d'influencer en mal la vie des gens ordinaires. Nous devons vivre dans la crainte du Créateur, pas des magiciens. Et c'est le Créateur, personne d'autre, qui mérite notre vénération. »
Des murmures approbateurs commencèrent à courir dans la salle.
« L'ordre impérial vous débarrassera de la magie, comme il a éliminé celle qui séparait depuis des millénaires l'ancien monde du nouveau. L'ordre vaincra, et l'humanité décidera librement de son destin. Même sans notre intervention, il naît de moins en moins de monstres doués pour la magie. » Parce que le Créateur, malgré son infinie patience, s'est lassé de cette engeance maudite. L'antique religion de la magie agonise. Le Créateur lui-même nous a fait savoir, par un signe sans équivoque, qu'il était temps de bannir les pouvoirs surnaturels de notre existence. »
Cette fois, les murmures approbateurs furent plus nombreux.
« Nous ne voulons pas combattre le peuple d'Anderit, ni le contraindre à prendre les armes pour lutter à nos côtés. Mais nous avons juré d'écraser les forces conduites par le bâtard qui dirige désormais Dara. Tous ceux qui s'allieront à lui tomberont sous nos coups. »
Stein leva de nouveau sa cape.
« Comme les sorciers dont j'ai pris la vie. »
Tenant la cape d'une main, il braqua l'index de l'autre sur l'assistance.
« Ne vous méprenez pas. Tous ceux qui se dresseront contre nous périront. Pour en finir avec la magie, nous avons d'autres moyens que les armes. » Comme celle qui nous séparait de vous, toutes les formes de pouvoir disparaîtront. L'ère de l'humanité commence, peuple d'Anderit. »
Le ministre leva une main faussement nonchalante.
Si ce ne sont pas les épées de notre glorieuse armée qui l'intéressent, que nous veut donc l'ordre?
L'empereur Jagang vous donne sa parole. Si vous ne vous rangez pas du côté de nos ennemis, nous ne vous attaquerons jamais. Il veut simplement établir des relations commerciales avec vous, comme vous en avez avec plusieurs pays. Certes,
dit Bertrand, jouant le rôle du sceptique au bénéfice exclusif de l'assistance.
Mais des accords antérieurs nous amènent à céder la plus grosse partie de nos produits aux contrées du milieu. Nous proposons de doubler tous les prix, si élevés soient-ils.
Le pontife leva une main, réduisant au silence la foule.
Et quel pourcentage de notre production désirez-vous acheter ?
Stein riva son regard de prédateur sur l'assistance.
100%. Notre armée compte des centaines de milliers d'hommes. Vous n'aurez pas à vous battre parce que c'est notre travail. Et si vous concluez un traité avec nous, vous serez en sécurité et plus prospère que jamais.
Le pontife se leva et balaya la salle du regard.
Merci de nous avoir rapporté les propos de l'empereur, maître Stein,
dit-il.
Nous n'arrêterons pas là ce dialogue, soyez-en assurés. En attendant, nous devons réfléchir.
Le vieil homme tendit un bras vers les convives.
Que la fête continue !